RFI et France 24 présentent. Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier.
Bienvenue dans le Café des Sports hebdomadaire. Vous nous retrouvez chaque semaine à la même heure pour évoquer le football autour de la planète. Nous parlerons évidemment de football et avec les invités du jour. Nous sommes presque au grand complet et c'est une bonne nouvelle, même si on attend sans doute l'invité le plus important et j'en suis désolée. Mais pour l'instant, je vous présente ceux qui sont là. Et il y a Xavier Barré. Bonjour Xavier.
Bonjour Annie. Bon, on n'a pas d'accident de voiture.
Oui, c'est ça. Un petit peu. Rémi va bien, mais effectivement, il a un petit retard, un petit contretemps. Bonjour, Eric Rabessandratana.
Bonjour, Rabi. Bonjour à tous.
Tout va bien ?
Ouais, super. Ouais. Très bien.
Votre PSG va bien avant les...
Il a l'air d'aller bien, hein, même si il peut toujours aller mieux, mais il a l'air d'aller bien.
Bon, mais s'il va bien, c'est déjà pas
ouais,
mal.
Ouais, c'est pas mal.
Bonjour, Frédéric Suto.
Bonjour, Annie. Bonjour, tout le monde. Et c'est parti, hein, le Facebook Live pour ce... Ce Café des Sports, Archiduc, bon retour à notre coach Annie, voilà, petite dédicace.
Je suis là.
Eric Naganda aussi, il est à Kisangani. Je suis en mode téléphone aujourd'hui à la main, écouteurs sur les oreilles. Je sais que ça va être « Wouh !» nous dit-il, avec la magnifique voix d'Annie Gasnier, « Much love
oh. !» C'est beau. Merci à tous, je suis très heureuse aussi d'être là et d'être en votre compagnie. Les absents y ont toujours tort, eh bien, on vous demandera de bien vouloir patienter.
Dommage qu'on ne parle pas du Real Madrid.
Ah, c'est dommage.
Non, mais on l'attend.
On va parler tranquillement.
On l'attend, ben, on va inventer un sujet. Ah,
vous savez qu'il y en a qui ont envoyé des cartons là, pour parler d'un certain Cristiano Ronaldo qui aurait mis des triplés cette semaine.
Ah, ouais. Ah bon, ça lui arrive encore. Bon, c'est trop facile aussi. Alors, dans les débats du jour, nous évoquerons ces remous à la FECAFOOT et autour des Lions indomptables avec la nomination d'un nouveau sélectionneur. Un bras de fer s'est-il engagé entre le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o ? Est-il un président sous tutelle ? Faut-il craindre surtout des conséquences néfastes pour le football camerounais ? Nous essaierons de comprendre. La Ligue des champions d'Afrique au stade des matchs retour des quarts de finale, le TP Mazembe et la SEC Mimosa pourront-ils intégrer le dernier carré continental ? Le derby d'Angleterre, match au sommet ce week-end de Premier League avec le choc entre Manchester United et Liverpool. Le vrai derby d'Angleterre, dit-on. Une formalité ou pas pour les Reds alors que Manchester United rumine encore sa défaite d'hier soir. Enfin, il y aura vos cartons et les nôtres. Et puis, vous nous direz aussi, chers participants, quel est votre favori pour le prix Marc-Vivien Fauré de cette année 2024. Un café préparé avec l'aide de David Finzel et Sarah Loubacouche. À la réalisation sonore, il y a Mathieu De Gueldre. Et puis, là-bas, du côté des moyens vidéo, nous avons Steven Elsley et Adrien Toureau. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. God Save the Queen pour nous transporter du côté de l'Angleterre, le nord de l'Angleterre. Et on n'y verra que du rouge, enfin c'est l'expression, puisque ce sont les deux clubs qui jouent en rouge dans ce championnat d'Angleterre et sans doute les plus célèbres de ce championnat. Oversea, comme on dit en France, hein, de l'autre côté du Channel. Alors voici le contexte. Manchester United recevra Liverpool sur sa pelouse d'Old Trafford, mais une équipe de Man U un peu blessée puisqu'hier soir, elle a perdu un match incroyable. C'était à Stamford Bridge. Elle a été battue par Chelsea en encaissant 2 buts dans les 2 dernières minutes. Un vrai scénario catastrophe pour Manchester United, alors que Liverpool, tranquillement, dans son rythme, pour ne pas perdre surtout la tête de la Première Ligue, hein, parce que les autres derrière, ils n'en finissent pas de gagner, Arsenal et City, eh bien, Liverpool s'est imposé face à Sheffield. Résultat, au vu de la forme des Reds de Jürgen Klopp. Allez, je pose la question à un fouteux dans cette pièce, hein, à celui qui a pratiqué les derbies, Eric Rabessandratana. Est-ce que, pour vous, On peut dire que ça sera une formalité, ce déplacement pour Liverpool.
Alors, c'est jamais une formalité, mais Liverpool a quand même un calendrier plutôt favorable pour cette fin de saison. Si je fais la comparaison avec Arsenal, qui va avoir beaucoup de matchs difficiles à jouer, avec beaucoup plus d'opposition. Ce déplacement à Manchester United représente une grosse opposition malgré tout, mais Liverpool est tellement dominant que je pense que ça va être pas facile, mais ça va être maîtrisé par Liverpool.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'effet psychologique, là, par exemple, de cette 31e journée qui a eu lieu encore hier soir, aura un impact, même si Manchester United est à domicile ?
Manchester United a tellement de points de retard pour essayer de participer.
C'est mal parti pour la Ligue des Champions l'an prochain.
J'ai quand même du mal à me dire qu'ils vont être revanchards ou ils vont accrocher plus que ça ce match-là, même si ça reste quand même un match symbolique. Je reste quand même persuadé que Liverpool va avoir beaucoup plus de détermination qu'un Manchester United qui est dans la difficulté.
Ah mais Manchester United, ils veulent aller en Ligue des Champions aussi.
Ils sont loin.
Il aurait fallu qu'ils gagnent hier soir déjà où ils se seraient rapprochés.
Vous parlez des 4 premières places. Il ne faut pas oublier que la 5e place est possiblement qualificative pour la Ligue des Champions aussi, avec le jeu le nouveau règlement qui donne une place supplémentaire aux 2 premiers au classement UEFA. Et donc l'Angleterre est bien placée. C'est pas encore fini, puisqu'on ne saura qu'en fin de saison.
32e journée, là.
Voilà. Donc, et puis, y a aussi le vainqueur de la Ligue Europa qui bascule aussi en Ligue des Champions. Donc, y a plein de possibilités qui font que le 6e de la Première Ligue peut, le 5e déjà, mais peut-être même le 6e, peut aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Et Manchester United est justement en position de prendre cette 6e place.
Hypothétique pour l'instant.
Ils vont pas lâcher, surtout dans ce derby d'Angleterre, qui est contre leur ennemi, parce que vous l'avez très bien présenté, Annie. Mais le grand match en Angleterre, c'est Liverpool-Manchester United.
Bien sûr,
c'est
symbolique, évidemment.
C'est le choc des chocs, c'est les deux clubs les plus titrés de l'histoire.
Mais c'est un peu comme PSG-Marseille, il y a des moments...
Plus, parce que ça remonte bien au-delà de la création du PSG, je veux pas avec ses rabais.
Mais des fois, l'état des troupes fait qu'on sent que le derby...
Moi, je pense que le match hier soir va laisser beaucoup de traces. Vous êtes à la 98e minute, temps additionnel, déjà beaucoup de temps additionnel. Vous menez 3-2 contre Chelsea... Et vous vous faites renverser en 2 minutes, le temps additionnel continue, et à la 101e, vous êtes battu 4-3. Et 4 jours plus tard, il faut jouer Liverpool. Mais bien sûr que ça va trotter dans les têtes.
Je suis d'accord avec Fred.
C'est terrible ce qui leur est arrivé là. C'était qui dans les buts ? C'était André Onana, je crois.
Hein, absolument.
Je ne l'attaque pas. Il y a des réactions sur le fil. Hein. Ils prennent énormément de buts cette année. Ce n'est pas que de sa faute. Mais il a encore pris 4 buts hier, André Onana.
Alors que De Gea est un gardien de but au chômage.
Au chômage, oui. Mais bon, après, le dernier but, par exemple, le ballon est dévié. Malheureusement, il est pris à contre-pied. Il ne peut rien faire. C'est des choses qui arrive. Maintenant, moi, je me prends à témoin l'ancien capitaine du PSG.
Pas trop, quand même.
Non, mais quand vous perdez un match, qu'est-ce qu'ils vous disent la plupart des joueurs ? Moi, j'ai pas été joueur à ce niveau-là, mais j'ai fait quelques interviews. On veut rejouer le plus vite possible pour se changer les idées. Donc, les joueurs de Manchester, ils savent qu'ils ont laissé filer une occasion à Stamford Bridge contre Chelsea. Là, ils ont l'occasion de prendre une revanche sur eux-mêmes, mais aussi sur leurs adversaires. Je pense qu'ils vont attaquer ce match contre Liverpool avec la rage aux lèvres.
Mais le gros problème quand même de Manchester United, Eric, c'est que cette équipe, cette année, elle peut faire des choses incroyables. Et après, s'écrouler au match d'après, où on se dit, ça y est... Et ils ont franchi une espèce de cap. Et à chaque fois qu'on a l'impression qu'ils se rétablissent, patatras.
Elle est très irrégulière. Juste peut-être, je regarde, parce que je suis en train de regarder justement les oppositions. Non, mais c'est vrai, les oppositions avec Tottenham va avoir un calendrier difficile jusqu'à la fin de saison. Ils vont jouer Arsenal.
C'est l'arbitre.
Ils vont jouer Arsenal, Chelsea, Liverpool. Il y aura Newcastle. Ça va être des matchs quand même difficiles. Ça peut permettre éventuellement à Manchester, mais encore faut-il être régulier, et ça c'est pas le cas pour l'instant. Donc je sais pas ça va leur permettre de revenir, mais ça leur laisse quand même une certaine chance pour revenir.
Sur le côté irrégularité, ils vous suivent plutôt, et il y en a pas mal qui voient finalement United embêter Liverpool. Hein, Robson nous dit, même si United est une équipe très irrégulière cette année, attention aux Red Devils. Jean-Kevin Bémac, lui, United ne laissera pas gagner Liverpool, c'est le derby.
Bien sûr. Et il faut voir que.
Une chose en plus, peut-être. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette équipe? C'est quoi? C'est des joueurs qui sont moins performants, qui sont en moins bonne forme? On parle de Bruno Fernandes, qui est quand même moins rayonnant, peut-être.
Oui,
je crois
que hier soir, il a été. Alors, plutôt bon.
Est irrégulier. L'équipe est irrégulière, mais lui aussi.
L'équipe dépend énormément de lui. L'an dernier, ce qui a fait le succès de Manchester United, qui avait quand même fait une très belle saison, ça a été le duo Eriksen-Bruno Fernandes. C'était ces doubles meneurs de jeu, ce double meneur de rôle de meneur de jeu qui pouvait alterner et trouver des solutions avec tous les attaquants de talent qu'ils avaient pour justement porter l'équipe. Cette année, Christian Eriksen n'est pas au top. Il est même rarement titulaire. Et Bruno Fernandes, du coup, a le poids a tout le poids du jeu sur ses épaules. Et forcément, ça fait combien d'années qu'il est là, être le joueur clé de Manchester United. Même son éphémère coéquipier Cristiano Ronaldo en avait pris un peu ombrage parce qu'il est adulé à Manchester. Et donc, Bruno Fernandes, bah, il peut avoir des coups de moins bien parce qu'il joue tout le temps.
Et puis alors, Eric, on le disait, ils prennent aussi beaucoup de buts, ouais. cette équipe. Et c'est vrai que là, ils prennent la défense, Maguire-Varane. Qu'en diriez-vous?
Maguire, moi déjà, je suis pas fan. Depuis très longtemps, je suis pas fan. C'est quand on parle d'irrégularité, c'est quand même le meilleur exemple de joueur qui est complètement irrégulier. Alors, il est capable de faire des performances intéressantes, mais il est quand même beaucoup plus coutumier de d'absence ou d'erreurs techniques ou de mise en difficulté de son équipe. Donc, ça va avec le rendement de Manchester United.
C'est aussi les blessures. Parce que vous donnez les noms de Maguire et Varane. Il ne faut pas oublier qu'en début de saison, Maguire, il n'était même pas dans le groupe.
Ça ne s'est pas vu, monsieur.
Non, mais...
Ça rigole.
Oui, mais Lisandro, l'Argentin, qui était une super recrue, on ne l'a pratiquement pas vu. Il est revenu et il est à nouveau blessé. Il y a un problème...
Rashford aussi, il a été à un moment...
Pour les attaquants, oui. Donc,
il y a
un effectif qui est effectivement soumis à très nombreuses blessures, et notamment la charnière. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, mais ils en sont à je ne sais pas combien de charnières alignées cette saison. Or, on sait que dans une défense...
C'est pas
l'ancien défenseur central du PSG qui va me contredire, que le rôle d'une charnière centrale, c'est essentiel dans l'équilibre d'une équipe.
C'est surtout d'amener la sécurité, et ce que n'a pas... Alors, même si Manchester United est quand même capable de faire des bons matchs, mais voilà, il n'y a pas de régularité et de sérénité défensive, en tout cas.
Les deux petits messages, Moussa Séni Amadou nous dit « Si Cristiano Ronaldo était encore là, Xavier Barré aurait trouvé le bouc émissaire. » Là, il doit trouver d'autres excuses.
Il se fait attaquer.
Et sinon, Mohamed Diallo, n'oubliez pas que le match est allé à Anfield, il y avait eu 0-0.
Mm-hmm. Oui, oui.
Exactement, que United a battu Liverpool 4-3.
Et Liverpool avait eu du mal à se mettre en route dans cette saison. Mais alors, messieurs, on en sera à la 32e journée. Et là-bas, il y a encore 20 clubs, donc il y en aura 38 des journées. On a quand même un trio qui mène un train d'enfer dans cette première ligue. Liverpool est un point devant Arsenal et 2 points devant Manchester City. Non, 2 et 3 points.
Non, 2 et 3 points.
C'est 2 et 3 points. Qu'est-ce qui va se passer selon vous dans ces journées qui restent?
On a eu ce débat dans votre émission, Annie, même si vous n'étiez pas toujours là.
Et ben voilà.
On a eu ces dernières semaines. Et à chaque fois, j'ai dit, je pense qu'il va y avoir des matchs nuls dans les chocs au sommet. C'est ce qui s'est passé. Manchester City, qui d'habitude gagnait tout, a fait match nul contre Liverpool et match nul contre Arsenal. Donc, ils n'ont pas gagné ces matchs, comme on disait à l'époque, à 4 points, maintenant à 6 points.
Ils font la différence, c'est vrai.
Et du coup, ils se retrouvent derrière, alors que potentiellement, ils pouvaient être leaders. Donc, ils ne sont plus maîtres de leur destin.
Puis, il n'y a plus vraiment de joker. Si City perd un match, là...
Bien sûr. Mais surtout, s'ils gagnaient ces 2 matchs au sommet, ils étaient leaders et ils étaient maîtres de leur destin. Là, ils ne le sont plus. Et je pense... moi, j'avais mis une petite pièce sur Arsenal, qui a un calendrier un petit peu moins chargé que les autres. Parce
comme
qu'ils
d'habitude.
Ils sont pas en cup.
Rémi n'est pas là pour dire le contraire, n'est-ce pas, Xavier?
Ce dernier temps, il est devenu très supporter des Gunners, je l'ai trouvé. Je pense que Arsène Wenger a dû beaucoup apprécier le retournement de veste de Rémi N'Gono. Et donc, Arsenal, je pense qu'il y a un petit peu moins de matchs à jouer parce qu'ils sont éliminés de la cup depuis un quelques temps, alors que les autres sont encore en course. Du coup, ils ont peut-être la possibilité d'être un peu plus frais.
Ils sont peut-être un peu plus frais que les autres.
Et ces dernières années, ils ont toujours craqué dans la dernière ligne droite.
Ils ont plus d'expérience maintenant.
Je regarde le calendrier d'Arsenal, Wolverhampton, Chelsea, Tottenham, Bournemouth, Manchester United, Everton. C'est pas facile hein, comme fin de saison. Et Manchester City a rien du tout, a aucune équipe qui va la déranger.
Alors, Eric, avec vos charmantes lunettes.
J'avoue que
on a
je
tous
ne vois
remarqué.
Plus rien, je suis désolé. Je suis vieux.
Eric, Manchester City a peut-être un problème, peut-être pas d'adversaire à venir, mais un problème avec Haaland. Est-ce que c'est un coup de mou? Est-ce que c'est un passage à vide? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que vraiment il est devenu mauvais?
Non, bah non, bien sûr que non, évidemment.
Je vous provoque, bien entendu.
Bien sûr, j'ai senti la provocation, mais non, mais. Haaland, j'ai presque envie de dire qu'il découvre un peu cette situation,
ce
parce qu'il a toujours été, assez régulier partout dans les clubs où il est passé. Et puis, il est en train de découvrir ça. Et on va voir un petit peu comment il est capable
c'est
de
quoi,
réagir.
C'est le rythme de l'Angleterre qu'impose l'Angleterre.
C'est peut-être,
parce que là, ils sont dans beaucoup de compétitions en même temps. Ils sont parmi les favoris de la Ligue des Champions. Donc, il y a quand même toujours des enjeux peut-être plus forts encore pour cette.
Il y a beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup d'attentes pour lui aussi.
Pour lui, oui.
On se rappelle que Manchester City a cherché longtemps.
L'année dernière, il marque quoi, 50 buts, hein,
c'est ouais, ça, mais alors, il y a eu un élément important l'année dernière, lors de la saison dernière, 2022-2023, c'est qu'il y a eu la Coupe du Monde au milieu. Et cette Coupe du Monde, la Norvège ne l'a pas jouée. Donc, en fait, Haaland, il a eu un mois de trêve, lui, pendant lequel il a pu se régénérer. Et comme on sait que c'est un joueur qui a une grande carcasse, qui a besoin d'être au top physiquement pour être efficace, eh bien, cette année, il n'a pas cette coupure. D'ailleurs, il a été blessé. Il a été absent à plusieurs reprises. Oui. Et je pense qu'il n'est pas dans le rythme, pas dans le rythme optimal. On voit que Pep Guardiola l'économise beaucoup. Il ne l'utilise pas à tous les matchs. Il le laisse se reposer justement pour qu'il puisse être décisif.
Au Real Madrid, peut-être.
Effectivement. On voit très bien que Haaland est parfaitement conscient de la situation. Il l'avait déclaré en interview. Il a dit « Je ne suis pas venu ici pour être champion d'Angleterre. Je suis venu ici pour faire gagner la Ligue des champions à Manchester City. » Il l'a déjà réussi la saison dernière.
Donc
ils ont comme objectif prioritaire de le refaire cette saison.
Frédéric, vous, qui voyez-vous terminer dans ce trio de fous
Liverpool, bien sûr.
Liverpool.
Jürgen Klopp.
Ouais. Les adieux pour ces adieux, ouais, c'est quand même symbolique et franchement, ce serait beau.
Et ça motive ses troupes, vraisemblablement. Hein. En tout cas, c'est le sentiment qu'on en a.
Ils veulent être champions, de toute façon. Il faut rappeler que la dernière fois que Liverpool
aussi,
a été champion, ça a été l'année...
On parlait d'Alain de Mossala, il n'est pas dans la forme de sa vie, là, en ce moment. Mais...
Oui, mais il y a d'autres solutions devant
vous allez voir
à Liverpool.
Le
on le voit avec Darwin Núñez, Luis Diaz... Gakpo qui est remplaçant alors qu'il est titulaire en équipe des Pays-Bas. Enfin bref, il y a quand même des solutions offensives incroyables. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que Liverpool a été champion la dernière fois en 2020, l'année du Covid, et que cette grande fête qu'attendait tout le peuple Scouser a été un peu gâchée par les circonstances. Donc ils ont vraiment envie, je pense, tous ces joueurs, de connaître un titre fêté avec tout le peuple d'Anfield, libéré, sans masque, tout le monde qui pourra partager cette joie.
Par contre, ce sera un coup dur pour Arsenal qui...
Deuxième année consécutive,
c'est cela, franchement, pour le moral, ça va être très très dur.
Ils viennent de tellement loin que, de toute façon, ils se remettent dans le haut.
Il y a cette participation à la Ligue des Champions qui peut peut-être un peu atténuer, mais...
Il reste 7 journées, c'est ça.
6.
C'est donc 32e, là. Et il y en a 38. Il en reste 6. Il y aura donc de la Ligue des Champions au cours de la semaine prochaine. Et nous serons là avant et après les matchs. Et notamment, il y aura ce Real de Madrid City et puis Arsenal Bayern de Munich le lendemain. Je crois qu'il y a un certain club français qui joue, n'est-ce pas, mercredi? On a le temps d'en reparler d'ici là.
Je ne sais plus.
On continue, puisqu'on parlait de Ligue des Champions, on va rester sur la Ligue des Champions, mais cette fois, la Ligue des Champions d'Afrique. La Ligue des Champions d'Afrique. Donc, 4 matchs au cours du week-end, 2 ce vendredi et 2 demain. Et le fameux dernier carré des clubs africains pour objectif, effectivement, dans cette Ligue des Champions. Le club de la RDC, le TP Mazembe et la SEC Mimosa d'Abidjan seront-ils parmi les 4 meilleures équipes du continent? C'est évidemment la question qu'on peut se poser à cette heure. Samedi dernier, à Lubumbashi, les Corbeaux, toujours en tête de leur championnat, n'ont pu faire qu'un 0-0 face au Petro de Luanda. Retour donc, ça sera demain 16h en Angola pour des Corbeaux qui ne disputent pas ce stade de la compétition depuis 2020. Sont-ils en route pour une demi-finale de Ligue des Champions d'Afrique? Eh bien, je vais poser la question à celui qui vient de s'immiscer dans ce studio assez discrètement. On l'a pas vu passer.
Il fait très très bien. Il fait très très bien la grenouille.
Diane Ousmane nous demandait où est Rémi. Où est Rémi? Il est là.
Et ben il est là.
Bonjour
Rémi.
Oui, bonjour Annie.
Tout va bien?
Tout va bien.
Présentez vos excuses à tous les auditeurs, spectateurs.
Et donc, à tous les spectateurs, vous devez savoir qu'il y a des choses qui se passent et qui ne dépendent pas de nous. À savoir que lorsque vous êtes victime d'un accident avec un scooter, il y a les forces de sécurité qui doivent venir et puis on contrôle tout. Et après,
mais tout va bien
vous avez
pour vous.
Beau dire, je vais, on m'attend sur le plateau radio, sur le plateau télé. On vous dit, monsieur, calmez-vous, on finit d'abord.
Vous
et puis
pas
on partait.
Pas assez connu dans les rues de Paris. Bon. Et le pilote du scooter, elle est bien aussi?
Oui, il va bien. Il va bien, sauf que ma voiture était malade.
ça sera notre problème. Rémi, dites-nous, est-ce que pour vous, les corbeaux du TP Mazembe, entraînés, réentraînés ou toujours entraînés par Lamine Diaye, ils ont fait 0-0 chez eux. Est-ce que quand même à Luanda, ils peuvent décrocher la place en demi-finale?
C'est ça, très difficile, parce que j'avais déjà dit, c'est une équipe qui sort d'une vaste humiliation l'année dernière, désillusion d'ailleurs, et que même à domicile, ils étaient souvent dominés. Cette fois-ci, ils ont au moins réussi à ne pas encaisser. C'est vrai qu'en voyant le match, ils pouvaient le gagner. Mais sauf qu'ils n'ont pas saisi toutes les opportunités. Mais
et,
à Luanda,
et chez vous,
maintenant.
Rémi, précisons, les matchs marqués à l'extérieur comptent toujours double, hein,
double.
En Afrique.
Et
donc,
c'est ça.
Donc c'est d'autant que ce que vous soulignez, c'est-à-dire ils
c'est
n'ont
bon
pas,
résultat.
Ils ont pas encaissé.
Domicile, c'est pas si mauvais que ça.
Et c'est pas si mauvais que ça. C'est pour ça que je dis que bon, il est fort possible que quelque chose puisse arriver parce que si eux aussi ça marquait, s'ils ont peut-être 3 opportunités et surtout s'ils parviennent à se créer encore des occasions parce que tout au moins cette fois-ci, pour une fois, on a pu voir que le milieu de terrain était assez bien huilé, mais sauf que la finition n'y était pas. La percussion était sur les côtés, mais la finition n'y était pas. Espérons qu'ils auront peut-être de la finition, mais attention, comme je dis, quand c'est toujours à l'extérieur, chaque chien est dangereux dans sa cour.
Non, Frédéric, ça nous intéresse beaucoup,
les Congolais.
On parle des Coupes d'Afrique, hein, mais là, c'est surtout... Il est là ! Bonne arrivée, Rémi ! L'arrivée du boss ! Le boss est là !
Le boss ? Non, Rémi. Je voulais vous l'entendre dire.
D'ailleurs, c'est bizarre, c'était très calme. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était
ça
très calme, Rémi.
Ah bon
ça, est-ce que ça te fait réfléchir?
Vous savez, actuellement, il fait 50 degrés au Tchad.
Xavier.
Mais moi, je ne suis pas aussi optimiste que Rémy Ngono pour les corbeaux du TP. Parce que ils n'ont pas réussi à gagner à l'aller, alors qu'en face de poule.
Vous aussi, vous mettez des lunettes.
Bah, oui, comme.
Il fait beaucoup plus vieux que moi. Hein.
Plus donc, sérieux.
Non, mais si on voit le TP à la maison, ils ont pu se qualifier. Ils ont fait 10 points en face de poule parce qu'ils ont presque fait le plein à la maison. Ils ont fait 7 points sur 9 possibles.
Oui.
Alors que là, à l'extérieur. Ils ont perdu contre les Mamelodi Sundowns, ils ont fait nul à Nouadhibou, ils ont, je crois, perdu aussi aux Pyramids. Donc, du coup, en déplacement, ils ont du mal. Et le Petro Atlético, à l'inverse, qui est sorti premier de sa phase de poule, lui, il gagne à Luanda. Donc, ça risque d'être très compliqué. Le Petro Atlético, on en avait parlé dans l'émission, c'est une équipe qui peut se payer des joueurs portugais et brésiliens. Donc,
grâce
il y a de la qualité. Grâce au pétrole, effectivement.
Comme son nom l'a dit.
Donc, il y a de la qualité. J'ai peur que ce soit à la marche ou un peu compliqué pour le TP.
Et pour la SEC, Xavier, alors, c'est retour à domicile. Et là, cette équipe, elle n'a pas encaissé de but, hein, on le disait. Alors, ils vont jouer au Pau Félicien, hein, qu'on a fréquenté durant la CAN. Ils vont recevoir l'Espérance de Tunis et ils ont réussi, eux, à arracher ce match nul à l'aller. Et c'était un bon résultat pour la SEC.
Ils ont fait 0-0 effectivement à Tunis, c'est remarquable. Mais le problème de la SEC actuellement, les Mimos, c'est qu'ils ne marquent pas. Ils ont marqué, je crois, 2 buts sur les 7 derniers matchs.
Bon, mais là, ne pas encaisser, c'était déjà bien.
Oui, alors pas encaisser, c'est une chose. Mais voilà, il faut marquer. Il va falloir marquer un moment. Et vous le rappeliez à l'instant, il y a encore la règle du but à l'extérieur dans les Coupes africaines, qui a été supprimée par l'UEFA dans les Coupes européennes. Et donc, s'il y a 1-1, ce sera l'espérance qui passe. Donc, il va falloir rester vigilant derrière et trouver des solutions pour marquer devant. Sur ce qu'ils ont montré lors des derniers matchs, les Mimos de Julien Chevalier, ils ont du mal. Donc, on est derrière eux, mais ça risque d'être compliqué.
On est derrière eux parce qu'ils montrent aussi hein, qu'il y a un travail énorme qui est fait pour ramener ce club au top du championnat de Ligue des Champions d'Afrique. Rémi ?
Nous avons pu voir...
Les jaunes et noirs.
Nous avons pu voir ce que la Côte d'Ivoire a eu à produire. Et nous avons pu voir comment est-ce que cette équipe-là, ces joueurs ivoiriens...
Vous faites allusion
maintenant...
à quoi?
Non, ils ont déjà...
Je ne vois pas ce qu'il veut dire.
Voilà, donc c'est une équipe qui déjà, je crois qu'au match aller, a pu constater qu'elle a tenu le choc. Et d'ailleurs, elle aurait pu, dans le dernier quart d'heure, elle aurait pu revenir avec au moins un but.
Ben oui.
Mais bon, cette fois-ci, quand on voit quand même l'engouement au niveau de la Côte d'Ivoire, ça ressemble un peu à la CANBIS. Parce qu'actuellement, il y a déjà 20 000 billets qui ont été vendus pour un match de cette envergure-là. Ça veut dire que le peuple ivoirien est complètement derrière eux comme ils étaient avec les éléphants. Et tout le monde a vu comment est-ce que les éléphants, quand ils ont été boostés, c'était
été
pratiquement
poussés,
intenable. Hein. Donc, l'espérance de Tunis, déjà, historiquement parlant, eh bien, c'est ASEC Mimosa qui a quand même 3 victoires. Donc, et à domicile, ASEC Mimosa ne perd pas. Comme toi aussi, tu donnais les statistiques tout de suite. Et du coup...
Rémi sans les lunettes, sans les statistiques.
La grande différence. Hein.
Rémi, il a tout dans la tête. Il y a quelques pronostics de la part de
nos
auditeurs.
Les supporters ivoiriens, eux aussi, ils surfent sur la victoire de la CAN. Hein, et on avait un bon reportage sur RFI ce matin du Ngourlet, justement, sur cet engouement-là. Tous les billets quasiment qui sont vendus, c'est peut-être l'année ou jamais pour les Mimos.
Et au festival de Deauville, où nous étions pour ce qui était du premier festival du documentaire sportif, eh bien, il y avait un très beau documentaire signé Diego Badia sur la bonne étoile, c'est-à-dire ce qui a porté ces Ivoiriens des tréfonds de l'enfer à un moment et jusqu'au Graal du sacre continental. Allez, on continue, on vous attendait Rémi, parce qu'on a un petit sujet un peu chaud là sur le feu. Il s'agit d'un certain président de la FECAFOOT.
Ce rôle est de la compétence de la fédération, et uniquement de la fédération. Ce n'est pas une polémique. Nous allons proposer, et puis nous espérons que parmi les 3 choix que nous apporterons, un des profils retiendra l'attention du premier sportif camerounais.
Alors cette déclaration, c'était il y a peu de temps, le 28 février dernier. On va vous donner un peu les éléments avant de commencer à en parler, mais c'était en même temps, on dirait, il y a fort longtemps, car depuis, les choses ont beaucoup évolué, elles ne cessent d'évoluer. D'ailleurs, vous allez le voir avec Frédéric, et ce n'est pas forcément comme le souhaitait Samuel Eto'o. Ses propos, on s'en doutait, hein, c'était sur France 24, anticipait sans doute quelque chose qui est venu, puisque lui... En rentrant de cette CAN pas très reluisante pour les Lions indomptables, il avait décidé qu'il ne renouvellerait pas le contrat de Rigobert Song, son ami. Et vous le savez, en début de semaine, un communiqué du ministère des Sports camerounais a révélé une liste des personnes qui intégreront le futur staff d'encadrement technique, administratif et médical de la sélection. Et ce sera dirigé par le Belge Marco Brice. Alors évidemment... la FECAFOOT en prend ombrage. D'abord, elle a déclaré qu'elle était surprise, qu'elle n'était pas au courant de ce qui était rendu public. Et puis, il y a eu un deuxième communiqué mercredi soir de la Fédération qui disait qu'elle n'avait pas été sollicitée, hein, ni de loin ni de près, et que donc, elle ne reconnaissait pas les nominations qui avaient été effectuées puisqu'elles ne sont pas dans un cadre légal. Samuel Eto'o faisait allusion à un décret de 2014 qui donne théoriquement le pouvoir à la FECAFOOT au moins de présenter 3 noms. Alors, c'est un vaudeville qui passionne, hein, du côté du Cameroun. Apparemment, tout le monde parle de ça. Et alors, il y a quelques heures, Frédéric,
c'est la réponse du ministre, ministre des Sports. Il répond aux 2 communiqués de la FECAFOOT et il s'adresse à Monsieur le Président de la Fédération Camerounaise de Foot, donc à Samuel Eto'o. Dans ce courrier, il rappelle que, là je le cite, hein, dans un passé récent, pour recruter le sélectionneur, quand c'était Clarence Seedorf, Antonio Conceição, Rigobert Song, on avait utilisé le même mécanisme sans
après
que cela
2014,
ait suscité
justement
la moindre polémique ou tentative d'obstruction de la part de la FECAFOOT. On a entendu Samuel Eto'o qui parlait de 3 noms qu'il pourrait soumettre. Il y revient. Il dit des candidatures, on en a reçu une trentaine, dont 3 transmises par vos soins. Mais, nous explique dans ce courrier le ministre des Sports, ces 3 candidatures présentées chacune, là je lis encore hein, le, le texte du ministre, des prétentions salariales exorbitantes, des montants excessifs jamais payés à un quelconque entraîneur dans l'histoire des Lions Indomptables. Et il continue comme ça pour justifier un petit peu la façon dont a été choisi Marc Brice. Il y a eu des visioconférences avec cinq des candidats pour ce poste de sélectionneur. Et au final, Marc Brice a été choisi. Il termine son courrier, Narcisse Mwelkombi, le ministre des Sports. Le plus important, c'est de se serrer les coudes, pour continuer à avancer et constituer une chaîne d'union sacrée autour de notre sélection nationale de foot, afin que celle-ci retrouve le chemin de nouvelles victoires.
Alors Rémi, moi je voudrais vous demander, est-ce que c'est vraiment un bras de fer qui est engagé entre le président de la FECAFOOT et le pouvoir finalement, le pouvoir qui paye en plus les sélectionneurs, ou est-ce que c'est aussi... je ne sais pas, pour sortir bien d'un mauvais pas.
Samuel Eto'o avait répondu à cette question sur France 24. Il avait dit, tous les problèmes que je rencontre au Cameroun, c'est parce qu'on me prête des intentions de briguer la magistrature suprême. Ce qui signifie que lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement, ce n'est pas seulement le ministre des Sports. C'est le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, donc vice-président, et d'ailleurs président parce qu'il a la délégation de pouvoir. Il fut un temps ami de Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o, bien évidemment, pour obtenir la nomination d'Érigo Berson, était passé par la première dame. Or, le ministre des Sports, lui, voulait garder Conseil. À 17h, l'information, lorsque le courrier arrive de la présidence, fermé, eh bien, on fait dire au ministre qu'il faut qu'il signe, qu'il valide. Eh bien, il avait refusé. Sauf qu'on lui a dit, tu le fais immédiatement. Et c'est au journal de 20h que c'était passé. Bon, Samuel Eto'o, vous avez évoqué la loi. De même que quand nous parlons de la loi, il ne faut pas se dire que parce qu'on avait eu à ne pas respecter la loi l'année dernière, l'année surpassée, on va continuer à ne pas respecter la loi. De l'esprit des lois du Cameroun, le président Biya a donc fait un décret, c'est-à-dire que c'est le décret 2014-384 du 26 septembre 2094. Or, dans l'article, justement, 3, alinéa 1, c'est le président de la FECAFOOT. Mais là-dedans aussi, il y a ce qu'on appelle l'article 9, où on vous dit que, bien évidemment, le gouvernement peut soumettre un sélectionneur. Mais le problème qui se pose ici, aujourd'hui, c'est quoi?
La FECAFOOT ne veut pas le reconnaître.
Soumettre ou imposer?
Mais Rémi, c'est pas la première fois que ça se passe. Certes, c'était avant ce décret de 2014, mais en 2007, d'après les renseignements que j'ai eus, en 2007, Otto Fischer avait été nommé pareil par la présidence. La FECAFOOT avait dit on reconnaît pas, mais on l'empêchera pas de travailler.
Vous dites 2007, il n'y a pas de décret. Donc,
c'est ça.
Le gouvernement est le chef de l'État. Lui-même, il s'assoit,
il y avait une guéguerre,
il valide quelque chose. Donc, c'est déjà validé,
Rémi,
comme
alors,
ça. On
est-ce qu'il y a un bras de fer? Est-ce que ça va aller loin? Est-ce que Samuel Eto'o va dire, eh ben moi, je ne reste pas dans ces conditions?
Il peut aller jusqu'à nommer son propre sélectionneur,
ça,
Samuel Eto'o?
Ça irait très loin. Ça irait très loin.
Il n'empêche que dans les lois, c'est lui qui a raison.
Ça irait très loin. Annie, pourquoi? Parce que...
Non, mais très loin, ça veut dire, est-ce qu'il peut dire, puisque c'est ça, je m'en vais?
Il dit... Il ne va pas dire « je m'en vais ».
Non.
Il ne va pas signer.
Pas sûr.
Il ne va pas valider. Pourquoi? Parce que...
Il ne va pas valider, mais il est obligé de laisser faire, c'est ça?
Non, il
peut laisser faire, mais Annie, n'oublions pas que le Cameroun n'a pas un championnat mondial à part. La fédération dépend de la FIFA. Les articles 13 et 17 demandent que les fédérations qui sont des associations soient autonomes et non qu'elles aient des ingérences étrangères. Donc, directement, le Cameroun court le risque d'une suspension. Et c'est pour cela que je dis que le bras de fer est engagé, mais aujourd'hui, il faut savoir que quand le ministre dit que c'est l'union sacrée, vous ne pouvez pas faire l'union sacrée après avoir totalement détruit celui qui a été élu. Samuel Eto'o a été élu pour un mandat.
Bah, on l'a laissé faire pendant 2 ans, c'est ça, Rémi?
Macron,
depuis 2 ans et demi qu'il a été
Macron
élu.
Macron a été élu pendant 5 ans. C'est pas pour cela que dès qu'il y a quelque chose, Rémi, on va dire tel vient.
Le problème,
Samuel
c'était, c'était les résultats
élu.
Qu'il y a eu, c'est ça? C'est
mais,
ça qui...
Vous savez, après une élection, l'ascension, c'est la nouvelle élection qui arrive.
Bien sûr.
Ce n'est pas que vous êtes en plein mandat. On vous juge chaque jour et le même régime qui vous juge, qui vous demande des résultats immédiats, qui vous dit, attendons, nous sommes là depuis 42 ans, on ne nous juge pas. Et on juge Samuel Eto'o avec les résultats immédiats. Non, ça ne peut pas aller.
Xavier Barret, selon vous, est-ce que la FIFA, voire la CAF, parce que finalement c'est elle qui représente la FIFA sur le continent, peut s'octroyer le droit de dire, on va critiquer, on va s'opposer à ce choix politique, alors qu'on sait... Enfin, prenons l'exemple en France de la ministre des Sports, Oudéa Castéra, qui a carrément fait virer le président de la Fédération française, Noël Le Graët. Donc, ce n'est pas que en Afrique, mais on sait qu'il y a des liens d'argent, il y a des liens d'influence et tout ça. Est-ce que la FIFA a intérêt à se mêler de ça? Même pour Samuel Eto'o, qui a été
un personnage. Le règlement de la FIFA s'applique aux petites fédérations, mais pas aux grosses. À l'époque, il y avait eu un changement de président en Russie. À l'époque où la Russie faisait partie du Concert des Nations, ils avaient viré Koloskov et ils avaient mis un homme du pouvoir à l'époque. Et puis la FIFA avait rien dit parce que ben voilà, c'est un grand pays et on fait rien quand c'est un petit pays.
Non, mais sur l'intromission politique, c'est vrai qu'en France, c'était une histoire autre pour le président de la fédération.
Je pense que la FIFA prend. Enfin, demeure. C'est vrai que il y a la lettre et l'esprit. À la lettre, effectivement, la FIFA peut intervenir à partir du moment où il y a une ingérence politique dans la gestion de la fédération. En plus, c'est très limite parce que le président n'est pas débarqué. Le président Eto'o est toujours en poste. C'est juste dans le mode de désignation, on l'a squeezé et on a quelqu'un d'autre à procéder à la désignation.
Il est remis en cause quand même.
Il propose trois noms et c'est pas les noms qu'on choisit, mais il a quand même eu son mot à dire, même si c'était pas
un processus effectivement très particulier dont Rémy Ngono nous a donné tous les détails, les tenants, les aboutissants. Mais quelque part, Eto'o, il est toujours président. Il n'a pas été débarqué. Qu'est-ce que vous voulez que la FIFA dise? Vous remettez le président? Mais non, il est en place. Donc après, la désignation du sélectionneur...
Il y a quand même ingérence dans le système et dans le processus de mise en place du sélectionneur. Il y a quand même ingérance.
Non, mais il y a toujours eu des liens très forts.
Il y en a toujours. Moi, j'ai connu, quand j'étais à Madagascar, j'ai connu la même chose. J'ai connu, pas en termes de nomination de sélectionneur, mais en termes de plein de choses, d'intrusion du pouvoir pour vous faire détourner un programme que vous avez organisé ou des choses. Toutes ces choses-là, ça existe. D'ailleurs, Samuel Eto'o était l'invité du premier match de... C'est pour ça que c'était drôle de voir... qui subit ça aussi dans son poste, mais ça existe, c'est un poison l'ingérence, vraiment. Alors moi je parle en termes de football pur, je parle pas de politique.
Et en tant qu'ancien coach.
Mais c'est un vrai poison, parce que quand vous avez une volonté footballistique de développer des choses, de mettre en place un processus qui va faire que là, il y a une progression dans votre football ou dans les résultats de votre nation, Là, c'est un vrai poison parce que les intentions sont plus les mêmes. Il y a d'un côté un équilibre football et de l'autre côté un équilibre politique et intérêt de personnel ou autre.
Depuis 2-3 ans que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de FECA Foot, d'ailleurs, on parle surtout de lui et de toutes ces affaires imbroglio et les gens indomptables dans tout ça, le sportif. On voit bien que la sélection, elle ne va pas très très bien quand même depuis qu'il est arrivé.
Rémy, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences pour les Lions? Parce que là, par exemple, on voit que faute de sélectionneurs, ils n'ont pas fait les matchs amicaux de la mi-mars. Et puis, ils ont des matchs très importants au mois de juin prochain.
C'est la scissure, c'est la moisissure, c'est la pourriture.
Non, mais le football camerounais est toujours revenu.
Non, attendez. Il ne peut pas revenir de cette façon-là. Parce que là, c'est très, très grave ce qui est en train de se passer actuellement. Pourquoi? Parce que, Samuel Eto'o, non seulement, vous savez que le gouvernement du Cameroun a engagé une procédure via la FIFA pour des matchs truqués. Et au-delà de ça, vous avez au niveau des nominations, c'est-à-dire qu'on vous dit le coordonnateur général de l'équipe des Lions indomptables. C'est Samuel Eto'o, l'article 4, qui dit exclusivement c'est lui qui doit le nommer. Or, il a viré un monsieur qu'on appelle Banlock. Et vous le reprenez, vous le nommez. Rémy, à partir de cet instant...
Effectivement, c'est comme une humiliation.
C'est une humiliation totale. D'accord. C'est comme exactement... On a vu à la gestion des matchs aujourd'hui, le championnat, on a mis Bell à l'Ognès, qui ne s'entend pas avec Samuel Eto'o. Et du coup... les recettes des matchs, le ministre des Finances a bloqué. Bref, on a tout coupé sur Samuel Eto'o. C'est programmé pour échouer.
Ah oui, tiens, ça fait un écho à un livre qui avait été publié il y a quelques années. Frédéric, il y a...
Non, mais ils adorent le débat. mais on nous remercie pour nos analyses. Et puis, Miamba William nous dit le Café des Sports, the place to be.
Bon, eh ben, écoutez, merci à tous. Et c'est promis au vu de ce qui risque de se passer et d'évoluer, puisqu'il y a une date butoir un peu, c'est-à-dire que le 12 avril, théoriquement, le nouveau staff qui a été nommé doit prendre ses fonctions. Que se passera-t-il ? Y aura-t-il...
Mais qui va l'accueillir à l'aéroport, Marguerite ?
Le ministre des Sports, sans doute, ça c'est sûr, mais après, d'autres personnes, ça serait bien, mais on verra si tout le monde se réconcilie. On est le 5, donc il leur reste 7 jours pour se réconcilier. Et donc, on verra ce qui se passe du côté d'Yaoundé. Nous, on continue et on y va vite à nos cartons.
Carton jaune !
Il y a un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Et tout de suite, chers amis, auditeurs et internautes et téléspectateurs, voici vos cartes.
Bonjour, bonjour, la dévote internationale. Moi, c'est Kamar Moussa, un joueur Comore. Mon carton est directement un carton vert que je l'adresse à son Excellence, Monsieur Rémy Ngono. Pour sa santé morale et physique à l'équipe de Carlo Ancelotti. Merci, monsieur Rémy, et bon courage.
Benezaï, donc depuis Cotonou, Bénin, je donne un carton vert à Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, pour ses choix audacieux, pour ses choix courageux qui vont dans l'intérêt du club. Il ne se laisse pas influencer par l'ego des poids lourds du vestiaire. Il y a un proverbe qui dit le chien aboie, la caravane passe.
Bonsoir Amadou, depuis Brazzaville au Congo. Sortir Interstar dans un match de Classico, déception totale. Luis Enrique, carton rouge à toi. Et Mbappé nous a prouvé qu'il reste toujours un grand joueur parce qu'il a marqué l'unique but du PSG pour la qualification de finale de la Coupe de France. Merci et bonne émission à vous.
Bonjour Radio Foot, c'est Branly de Kinshasa. Je m'en vais adresser un carton, un panneau, un énorme panneau rouge à Manchester City pour sa contre-performance lors de la réception d'Arsenal. C'est un match nul de trop. Et accessoirement à Haaland, qui reste muet depuis près de 6 matchs en Premier League. Et globalement, il reste improductif lors des grands rendez-vous, depuis la saison dernière d'ailleurs.
Bonjour Monsieur Rémy, bonjour Monsieur Xavier Barré. Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International. Les meilleurs commentateurs de football. Moi, c'est Christophe Togolais, vivant en Chine. Aujourd'hui, j'adresse mon carton. Mon carton, il est vert et il est adressé à M. Lounine, le gardien de mon club préféré. J'espère qu'il va continuer par aider l'équipe à gagner le match face à Manchester City et surtout aller remporter la Ligue des Champions. Merci et bonne émission à vous. Ciao.
Salut Radio Foot International, Kamisoko Sekou depuis les Émirats Arabes Unis. La couleur de mon carton est noire, adressée aux joueurs sud-africains de Casual Street Lockflurs, tué lors du vol de sa voiture. Je pense que ce n'est pas la première fois et ça doit s'arrêter. Ciao.
Bonjour, bonjour, bonjour. Le Café des Sports, c'est Luc Armel Agongo depuis Abomey-Calavi au Bénin. Je donne un carton rouge. Un carton rouge à la Fédération béninoise de football et au gouvernement béninois. Il y a 3 ans, juste 3 ans, que le stade général Mathieu Kérékou a été rénové à coups de milliards. Et figurez-vous, 3 ans après, les Guépards du Bénin ne peuvent plus jouer sur cette pelouse. C'est honteux pour un pays qui voulait organiser la CAN.
C'est 7e depuis Rennes, sénégalais. Je voulais donner un carton rouge au ministère des Sports, peut-être à la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, concernant la grosse confusion qui se passe actuellement sur la nomination du futur entraîneur de l'équipe nationale. Tout ce qu'on demande en tant qu'amoureux du ballon rond, c'est la non-ingérence de la politique sur le football. Merci beaucoup.
Bonsoir Café des Sports, c'est Samuel Birocha Pacifique depuis la ville de Bukavu en République démocratique du Congo. Carton rouge aux supporters de Sestao qui ont lancé des insultes racistes au gardien Dereo Maradaronda Tchekstar. Carton vert également à ses coéquipiers qui ont accepté de perdre les matchs sur tapis vert.
Bonjour le Café des Sports, moi c'est Mariama Bombo Bangora. Depuis Guinée-Conakry, je suis fan de football, mais des clubs de cœur, Arsenal, les Gunners et les Merengues du Real Madrid. Mon carton, il est vert. Il est pour Radio Foot International. Une émission que je suis régulièrement depuis 2 ans. Et à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de vous écouter. Et bonne émission à vous. Je vous kiffe.
Elle nous kiffe, et ben on la kiffe aussi, cette chère auditrice. Et revenez toutes les semaines. Je suis sûre que David Finzel vous fera une place dans la sélection, toujours très difficile, hein, toutes les semaines, puisqu'on reçoit beaucoup de cartons. Mais un carton vert, c'est pour la Chine là-bas, parce que Christophe nous écoute en Chine, et ça, c'est génial.
Ah oui, franchement.
Il y a Eric qui se demande quand est-ce qu'il sera là, qu'il y aura des cartons de Madagascar
quand même.
Alors, envoyez des cartons de Madagascar. Allez les amis, on y va. Eh bien Eric, à vous, votre carton, quelle couleur ?
C'est un vert, c'est un carton un peu personnel on va dire. J'étais l'invité au match de Toulouse avec Aliou Cissé. Et comme ça faisait depuis que du Paris Saint-Germain, pardon, invité du Paris Saint-Germain pour ce match-là. Et donc Aliou Cissé était invité en même temps que moi et ça m'a permis de le revoir depuis qu'on s'était quitté du Paris Saint-Germain. Donc ça faisait très très longtemps, j'avais de temps en temps des nouvelles mais je ne l'avais jamais eu en direct. Et donc on était très heureux de se revoir. Donc voilà, carton vert au PSG qui m'a permis de revoir Aliou Cissé depuis très longtemps.
Ah pas Aliou Cissé, alors au PSG qui...
Ils invitent beaucoup d'anciens à venir pour les matchs.
Oui, ça a été un peu tardif mais ça commence à
en 11 ans, c'est pas fait beaucoup.
Je crois que ce week-end il y aura le néerlandais Kiss Kiss pour ceux qui se souviennent.
Votre carton Xavier.
Vert aussi pour un ancien joueur du PSG, mais qui n'est plus à Paris, qui est au Havre.
Pas moi.
Qui est au Havre, oui.
D'accord.
Mathieu Bodmer, qui a fait une carrière assez incroyable de joueur, qui était au port de l'équipe de France, qui n'a jamais été chez les Bleus, mais qui aujourd'hui embrasse une carrière de dirigeant avec beaucoup, beaucoup de justesse dans ses choix.
Ouais,
et qui a décidé de poursuivre sa carrière au Havre dans un club promu qui est en difficulté pour se maintenir, mais il a prolongé son contrat jusqu'en 2027 alors qu'il avait d'autres propositions.
Le premier club à avoir été créé en France. Hein,
oui, le club doyen. Ouais.
Exactement, le doyen des clubs français. Rémi, votre carton.
Ah, vert ! Un ancien joueur du Real.
Pas du Paris Saint-Germain.
Qui est toujours nouveau. Ah oui, 39 ans, Cristiano Ronaldo.
Et alors ?
Vous avez pu le constater, comment est-ce que le gars il empile des buts. Il vient de mettre encore deux triplés là.
Avec et qui et contre qui ?
Un championnat de
vous parlez de Messi qui joue dans la neige.
Oui, c'est pire, c'est pire.
Ah mais attendez, et là, nous sommes quand même dans un championnat où on vous dit que le meilleur buteur de tous les temps pour une saison, c'est 29 buts. Lui, il est déjà à 29, et sans pourtant oublier que la saison n'est pas terminée. Donc, Cristiano Ronaldo, on a beau dire, il est vieux.
D'accord.
Il est ceci, non, il est bon. Comme le dit un proverbe africain, mieux vaut une vieille cuillère qui te donne à manger qu'une cuillère neuve qui te déchire la bouche.
Les amis, avec Frédéric, on va sacrifier nos cartons parce qu'on a une dernière question à vous poser. Le primaire Vivien Fauet, selon vous, qui sera le vainqueur ? Rémi.
On connaît les 11 finalistes.
Aubameyang.
On a les 11 finalistes qui ont été révélés dans une émission cette semaine. C'était mardi dans Radio Foot International.
Pour moi, c'est Aubameyang.
Pierre-Emerick Aubameyang.
Oui, Pierre-Emerick.
Ouais.
Moi aussi.
Et vous ?
Moi aussi. Il fait une belle saison et voilà, il est à 23 buts toute compétition confondue, donc il fait une belle saison.
Mais la Ligue
saison.
Europa ne compte
l'attaquant,
pas.
L'attaquant.
Oui, mais bon,
de
moi, pour moi, il compte. Ça reste quand même des buts.
Alors, vous vous souvenez qu'il l'a déjà eu gagné, hein, Pierre.
Surtout le comeback.
Il jouait à Saint-Etienne à l'époque.
Surtout le comeback de quelqu'un qui, pour moi, pourquoi est-ce que je le dis ? On peut rater le départ. Mais surtout, La Fontaine le disait, c'est la fin. C'est-à-dire que le gars réussit une chevauchée incroyable.
Moi, il l'a eu en 2013, effectivement. Je regarde le palmarès. L'ont eu l'OM, Lens, Lille, Angers, Nice. Et quel est le club qui domine le football français, là, puisqu'il s'agit du meilleur joueur africain de Ligue 1 ? Le PSG ne l'a jamais eu.
Bah, donc cette année, c'est pour Hakimi. Il y a Hakimi dans la liste. Hein.
Cette année, bon, c'est pour Hakimi.
Pour rester neutre. Hein.
Moi, je reste neutre. Déjà,
on ira. Le 13 mai prochain, on ira rencontrer le lauréat. Et ça sera, on espère, une grande émission. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci Rémi d'être passé dans notre studio. Et merci les amis. À la semaine prochaine. Et bon week-end à tous.